Babylone, Nancy Ypsilantis
et Mirona Coca-Cosma. Bonjour et bienvenue dans Babylone, bienvenue dans la vie algorithmique, quelle promesse. Une vie ultra connectée, mesurée et mesurable, une vie surveillée, George Orwell l'avait imaginé, les géants d'Internet l'ont réalisé, Big Brother est là, il est bien là.
Le numérique est une utopie politique aujourd'hui. C'est-à-dire que le numérique, ça permet de ne pas penser les problèmes sociaux, les problèmes démocratiques, les problèmes économiques, puisque le numérique permet de réactiver en fait une sorte de vieil utopisme technologique, de vieux fatalisme technologique qui considère qu'il y a des problèmes de démocratie, et bah, il suffira de mettre en place le vote électronique pour les résoudre. Il y a des problèmes sociaux, on va permettre de développer le numérique pour atténuer les problèmes sociaux qui se posent dans la société. Il y a des problèmes écologiques, on va mettre en place du numérique partout pour améliorer l'efficacité énergétique. Et le numérique permet en fait de ne pas penser le politique. Les politiques s'emparent du numérique comme une manière de ne pas avoir à penser les problèmes à leurs racines, mais en apportant des solutions techniques. Et donc pour moi, cette prolifération du numérique, c'est une illustration d'une forme de crise de la démocratie.
Caution, caution, a virus has been detected. Caution.
Le virus est là, Mirona, et il est ami.
Oui,
il est dans tous les objets qu'on touche.
Et les smartphones, dans Apple Watch, dans Google Glass, ou le quantified self, la mesure de soi. Les expressions nébuleuses ne manquent pas quand il s'agit du monde numérique, une nouvelle langue pour redéfinir nos corps, nos rapports aux autres. Tout est désormais quantifié, mesuré en temps réel et optimisé à l'aide des algorithmes pour enfin tout être monétisé. Les nouvelles technologies nous offrent un rêve, ou plutôt une illusion, celle de contrôler le réel.
Éric Sadin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Babylone. Vous êtes philosophe et écrivain, spécialiste du numérique. Votre réflexion porte justement sur les mutations algorithmiques que nous vivons et vous venez de publier La vie algorithmique. Et critique de la raison numérique aux éditions L'Échappée. Éric Sadin, le numérique, une utopie politique ?
Oui, enfin, avant d'être une utopie politique, ce sont des technologies. C'est de la réduction de l'écrit, du son, de l'image initialement, hein, à des codes binaires qui ont rendu possible ce qui a été nommé l'âge de l'accès, hein, c'est-à-dire avec les réseaux de télécommunications et la numérisation des différents champs symboliques, hein, successifs au cours des années 70, 80, 90.
Mmh. C'était la promesse d'Internet.
Voilà, c'était l'avènement d'Internet, l'âge de l'accès, c'est-à-dire la capacité pour les individus depuis chez eux ou d'autres endroits, avoir accès à une quantité extrêmement volumineuse et toujours plus volumineuse de fonds, de corpus culturels. Or, je pense que notre représentation du numérique reste encore déterminée par ce qui a été nommé l'âge de l'accès, qui continue, hein, qui ne cesse de se développer. Mais aujourd'hui, s'agrège à une autre ère, à mon sens, qui démarre exactement actuellement, qui est ce que je nomme l'âge de la mesure, c'est-à-dire le fait que de plus en plus d'informations, non plus de l'ordre relevant du champ symbolique, écrit, son, image, mais qui relèvent des phénomènes du réel, par des capteurs, par l'événement extrêmement important que représentent les objets connectés, c'est-à-dire de capter quantité de plus en plus dans les temps à venir, de capter des phénomènes du réel à la source, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire au moment où ils se déploient, je pense par exemple à des capteurs météo, à des capteurs, vous avez parlé de l'Apple Watch, hein, des flux physiologiques ou dans les champs ou dans les usines, des capteurs de mesure de productivité. Enfin, les exemples sont très importants. Donc, il y a aussi aujourd'hui la capacité de saisir de plus en plus de phénomènes du réel à la source, d'interpréter des phénomènes et d'agir en fonction d'une connaissance de plus en plus étendue et approfondie des phénomènes. Donc, ce n'est plus seulement l'âge de l'accès, c'est l'âge de l'accès et l'âge de la compréhension en temps réel des phénomènes, et de la mesure, et donc de la rétroaction de l'action humaine ou de l'action par les systèmes, en fonction d'une connaissance de plus en plus étendue et fiable. Et là, et cela induit un nouvel environnement cognitif épistémologique.
Mais un environnement, Éric Sadin, et vous le présentez dans l'ouverture de votre ouvrage sur une sorte de fable, où finalement l'homme est accompagné par une technologie qui le devine, qui sait s'il faut baisser la lumière parce que son horloge interne va ceci ou cela, son Apple Watch qui va lui dire qu'il a fait suffisamment d'exercices. Enfin, un monde accueillant, entre guillemets.
Enfin, accueillant, en tout cas, vous avez évoqué la notion d'accompagner, enfin accompagnement. Il y a quelque chose aussi bien, enfin, surtout pour les individus aussi.
C'est ça, c'est une promesse à l'individu. On prend soin de vous, perso.
Oui, enfin. Voilà, c'est-à-dire qu'on assiste. Hein. Vous vous souvenez, dans les années 80, on parlait de publications assistées hein, par ordinateur. Après, il y a eu plusieurs choses assistées. Aujourd'hui, c'est la vie qui est assistée, c'est-à-dire la vie en vue de trois axiomes devenus fondamentaux dans nos sociétés, qui sont l'optimisation hein, des situations individuelles et collectives, la sécurisation, hein, le primat de la sécurisation, et la fluidification, hein, que les choses aillent de plus en plus vite, qu'il n'y ait pas de résistance, notamment dans les actes d'achat. Donc cet accompagnement se fait à la mesure de ces trois mesures. Et comment est-il rendu possible cet accompagnement ? Par le fait que les individus et les objets connectés vont constituer un seuil sur cela, notamment les montres connectées, les bracelets, et aussi la maison connectée, la ville connectée, les champs de travail connectés, et les lunettes connectées. Bref, les individus sont appelés à générer de plus en plus de données qui témoignent, c'est cela qu'il faut bien saisir, qui témoignent de façon de plus en plus étendue de nos comportements, hein, étendue, c'est-à-dire au cours de nos quotidiens, de séquences de plus en plus diverses et étendues. Ces données qui sont captées par des myriades de serveurs et qui rend possible une intelligence, une compréhension des comportements et par des systèmes, la capacité à aussitôt suggérer des offres, des produits, des solutions, dit-on, supposées adaptées à chaque individu. C'est cela l'architecture qui est à l'œuvre. Et cela relève d'un axe que je nomme un accompagnement algorithmique de la vie, c'est-à-dire par proposer immédiatement en fonction de la compréhension des comportements individuels et prioritairement en vue de proposer des services et des produits. Donc cela aussi induit cet accompagnement, pas seulement cela, mais prioritairement, une marchandisation est assez insensible, hein, elle n'est pas vraiment visible, mais une marchandisation de plus en plus amplifiée et intégrale de la vie. Je donne juste un exemple, une balance connectée par exemple. Ce n'est pas seulement transmettre des données sur un serveur relativement à nos courbes évolutives de nos poids, c'est dans le même moment recevoir par des applications dont on ne sait même pas d'ailleurs quel est le niveau de compétence, mais de recevoir, donc ça pose aussi des problèmes concernant la multiplicité d'acteurs par exemple hein, dans le champ de la santé, c'est recevoir des propositions de compléments alimentaires ou de séjours à la montagne en fonction de mes courbes évolutives. C'est cela aussi la quantification par les objets connectés, la connaissance des comportements, c'est-à-dire la rétroaction de suggestions d'offres commerciales constamment adossées à nos comportements individuels quotidiens.
Éric Sadin, vous parlez justement de cette quantification. On mesure en fait notre vie à une virgule près. Vous avez employé le terme de marchandisation. C'est justement ce que vous dénoncez dans votre livre. Il y a donc la marchandisation, le fait que nous sommes dans une époque extrêmement servicielle, mais surtout
Exactement.
Extrêmement rationnelle. Ça aussi, vous dénoncez dans votre livre.
Exactement. C'est ce que vous avez dit, serviciel, c'est très juste. Et rationnel, qu'est-ce que ça veut dire un moment de haute rationalisation du monde? C'est-à-dire qu'il y a c'est un double phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance de plus en plus, nous l'avons dit, étendue en temps réel des phénomènes du réel. Hein. Par exemple, savez-vous combien il y a de capteurs? Un exemple précis, hein, dans un Airbus A380. Alors, un Airbus A380, ça sert à faire voyager.
On est heureux qu'il y en ait
beaucoup.
Voilà, non mais c'est très bien.
On se sent en sécurité, justement.
Voilà, de la captation d'informations. Il y a 250 000 capteurs dans un Airbus A380. Ces capteurs transmettent en temps réel des informations à des serveurs et des systèmes qui interprètent éventuellement des déficiences dans la logistique et qui rendent possible, quand un avion se pose sur le tarmac, qui roule sur le tarmac, des interventions logistiques, donc des réductions, hein, des réductions de temps d'intervention, des optimisations de coûts. Donc, on a envie de dire que tout ça est pour la bonne cause. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça rend possible? Et les exemples sont nombreux. C'est une collecte d'informations de tous ordres, hein, nous l'avons dit, et donc une interprétation en temps réel. Et cette interprétation de plus en plus relativement à un nombre de plus en plus étendu de phénomènes. Hein, les 10 années à venir vont entraîner une connaissance de quantité de phénomènes, que nous allons être dotés d'une sorte d'omniscience quasi divine sur tout ce qui se passe sur la planète et aussi les corps. Hein. Et donc cela rend possible une capacité d'agir en étant de plus en plus au fait des phénomènes. C'est cela la rationalisation. Et cette connaissance, la vocation est de instaurer des situations qui tendent vers leur plus grande, je l'ai dit, il faut le redire, optimisation, sécurisation et fluidification. Et c'est notamment à l'œuvre dans les champs du travail, c'est-à-dire de plus en plus de capteurs dans les entreprises, dans la logistique, une compréhension des mesures de productivité, de la demande, hein, de la demande des clients, et tout cela organise ce qu'on appelle des data-driven manufacturer, par exemple, ou de la feedback economy, c'est-à-dire on sait exactement ce qui se passe, on rétroagit, hein, soit les humains, soit des systèmes, en fonction de vocation, de rationalisation, c'est-à-dire d'optimisation, de fluidification et de sécurisation. Donc ça veut dire que c'est une connaissance d'ordre utilitariste, fonctionnaliste, et donc que le numérique ne relève plus seulement de l'ordre nous l'avons dit, de l'accès, mais entraîne une organisation hyper rationalisée des sociétés. C'est cela qu'il faut saisir aujourd'hui. Ce sont des modèles organisationnels qui se mettent en place, hein, qui se développent par la connaissance, par la numérisation et par la rétroaction en vue, voilà, de cette vocation fonctionnaliste utilitariste. Donc ce sont des modèles organisationnels hyper rationnels qui s'instaurent et qui ne cessent de se développer aujourd'hui.
Alors qu'en ce moment même, Google qui fait une voiture décide qu'elle roule trop bien, qu'elle est trop technique et lui donne comme information de devenir plus humaine, c'est-à-dire de régater avec les lois de la route. Donc on est déjà dans une sorte de spirale. Mais je vous propose, Eric Sadin, de faire un retour sur cette société dominée par la technique, parce que ça ne date pas d'hier, d'aujourd'hui évidemment. Durant des siècles, l'innovation a souvent rimé avec suspicion et les discours technocritique.
Oui, le déferlement technologique massif de notre époque est porté par une multitude de discours de promotion, on vient de l'entendre. Des inquiétudes s'expriment régulièrement dans l'espace public sur la question de la sécurité, sur notre vie intime, du contrôle social que véhiculent toutes ces technologies. J'ai donc demandé à François Jarige, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, auteur de Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences, de nous expliquer pourquoi les technophobes, comme on les appelle par paresse, sont inaudibles.
On peut dire à la fois que le discours technocritique est inaudible, et on peut aussi considérer que sur la question du numérique, le discours critique ou l'interrogation, la remise en cause n'a sans doute jamais été aussi rapide, n'a jamais été aussi importante depuis très longtemps. Donc il me semble qu'on est dans un moment technocritique assez dynamique, paradoxalement. Même si cette technocritique reste globalement, à l'échelle de la société et des débats qui animent notre société, relativement secondaire ou marginale. Mais on est quand même dans un moment d'interrogation très vif, si on compare par exemple à d'autres périodes historiques, comme la période de forte croissance des années 1950-1960. Là, on vit un moment où il y a une emprise, et le fait que vous fassiez cette émission, que vous invitiez Eric Sadin, ça témoigne bien aussi de cette mise en débat collectif de nos choix techniques. Le moment dans lequel on vit fait qu'il y a une conjonction de facteurs qui rendent la technocritique légitime malgré tout, de plus en plus audible, même si elle reste marginale. On peut imaginer que cette technocritique va peut-être monter, sauf si elle est cadrée, résorbée rapidement par des contre-feux qui s'allument de tous les côtés. Et donc, on pourrait réfléchir à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a un contexte favorable à la technocritique. Alors, on vit dans une société marquée par un chômage de masse, par un chômage massif et structurel depuis 30 ans. Et donc, évidemment, le discours annonçant le bonheur collectif, l'émancipation et l'abondance grâce au numérique se heurte immédiatement à la réalité qui est la persistance d'un chômage massif, une mise en concurrence généralisée des économies à l'échelle du monde, dont participe d'ailleurs très largement le numérique. Donc ça évidemment favorise cette émergence, cette légitimité de ce discours. Il y a une deuxième dimension, c'est la question environnementale et la question écologique. Cette question écologique, qui aujourd'hui est au centre des débats, invite à penser nos choix techniques et nos choix industriels de façon plus réaliste, plus consciente, et l'ancienne croyance ou foi dans le progrès technique tel qu'il s'était mis en place au 19e siècle, même s'il persiste, même s'il est réactivé de multiples manières, notamment par les institutions dominantes, cette croyance, elle se fissure aussi. Elle se fissure très largement parce qu'on vit dans un moment, évidemment, où l'effondrement écologique en termes d'accès aux ressources, de pollution, de réchauffement climatique, évidemment, amène à s'interroger sur nos choix techniques. Et donc la grande question aujourd'hui, c'est en gros le numérique et l'économie qui est en train de se mettre en place avec le monde numérique, sera-t-il une réponse et une solution à cet effondrement écologique? Ou est-ce que cette trajectoire numérique, au contraire, accentue, poursuit des dynamiques industrielles anciennes jusqu'à accélérer encore cet effondrement écologique? Et là, il y a une ligne de partage entre peut-être les technocritiques qui voient dans le numérique une poursuite des trajectoires antérieures qui accentue et qui aggrave la dégradation, et d'autres, les enthousiastes, les technophiles de la Silicon Valley, qui y voient dans le numérique une solution à tous nos problèmes, et notamment à nos problèmes écologiques. Alors, ce qu'on appelle la technique, ce qu'on appelle le progrès, toutes ces grandes catégories qui veulent en fait rien dire, c'est des notions qui apparaissent au 19e siècle. Il faut rappeler toujours que le progrès, ça ne veut pas dire grand-chose encore au 17e, au 18e siècle. L'idée de progrès et l'identification surtout du progrès à l'amélioration de l'efficacité des techniques, ça c'est quelque chose qui est propre au 19e siècle. De même, le mot technique, j'aime bien rappeler ça, le mot technique n'est pas employé au 18e siècle, n'existe pas. Il n'y a pas de technique. Il y a des arts de faire, il y a des procédés, des artefacts matériels. Vous savez, si vous ouvrez un dictionnaire du 18e siècle à l'entrée technique, vous savez ce que vous verrez? La technique, c'est d'abord des moyens de se remémorer un poème. C'est peu à peu au cours du 19e siècle que va se construire cette espèce de foi, de confiance collective dans le progrès technique.
Est-ce que le XXe siècle, et jusqu'au milieu en fait du XXe siècle, peut-on parler d'une la belle époque des techniques?
Je dirais que il y a une résurgence de la technocritique après un relatif arrêt qui s'était mis en place dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a une résurgence de la technocritique qui correspond au fait que c'est une époque marquée par d'intenses bouleversements technologiques. On l'oublie, mais c'est une époque qui est vécue par les contemporains comme un moment de bouleversement technique aussi massif que ce qu'on vit aujourd'hui. L'arrivée de l'électricité, l'arrivée de l'automobile, l'arrivée de tous ces fétiches de la société de consommation et des techniques du XXe siècle se met en place à ce moment-là en suscitant énormément de débats. À la fois énormément de débats et aussi énormément d'enthousiasme. Il y a énormément de points communs entre les discours d'accompagnement de l'électricité et les discours d'accompagnement actuels du numérique. On trouve quasiment les mêmes arguments sur la pacification universelle, sur la communication universelle, sur la fin de la pollution. L'électricité devait faire disparaître la pollution en faisant naître une société plus immatérielle que l'ancienne société industrielle fondée sur le charbon. Mais non, parce qu'on voit bien que ça ne s'est pas passé. Donc la technocritique est assez intense et prend des formes très diverses. Alors il faudrait plus de temps, mais par exemple, puisqu'on est en Suisse, il faut se rappeler que la Suisse a été, à l'égard par exemple de cet objet particulièrement spectaculaire qui est l'automobile, la Suisse a été l'un des pays qui s'est le plus opposé à l'automobile. Il y a eu des référendums en Suisse s'opposant, interdisant l'automobile. Il y a eu d'énormes soulèvements paysans pour s'attaquer aux automobiles, parce que l'automobile à l'époque était perçu comme un instrument de distinction sociale des élites, de l'aristocratie, qui retrouvait une sorte de monopole sur l'espace public à travers leurs automobiles.
Depuis l'interdiction de circuler le dimanche, mes chers auditeurs, nos chaussées romandes ont changé d'aspect. Et nous allons poser cette question au capitaine de police Henri Mutru. Monsieur Mutru, au fond, cette loi d'interdiction de rouler le dimanche, soyons justes, monsieur Mutru, à quoi vise-t-elle? Non pas empêcher qu'on use la route ou les pneus de la voiture.
Du tout. La loi vise, tout d'abord, bien entendu, la consommation de l'essence le dimanche. Et je pourrais même vous citer une anecdote. C'est un brave paysan qui, descendant des Palinges, se fait arrêter à la place de l'Ours. Là, j'enlève le bras. Monsieur, vous circulez en motocyclette? Mais oui. Et vous ne connaissez pas l'interdiction de circuler le dimanche? Mais si, je la connais, c'est précisément parce que je la connais, que je circule, mais je circule au point mort. Et alors, le monsieur, évidemment, n'avait pas engagé de vitesse. Il s'est laissé descendre tout tranquillement des Palinges à Lausanne et il a bien ajouté ceci, « Mais je compte rentrer chez moi lundi. »
Voilà, une délicieuse archive de 1939 de la RTS. Les dimanches sans voiture, bah depuis, il y en a eu. Éric Sadin, François Jarry, je nous parlais de ce temps qui était cyclique, qui revenait et qui tout d'un coup se transforme en ligne droite. Et c'est là qu'on a cette crainte d'aller droit dans le mur.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit François Jarige. Quand on parle de technocritique, moi, de plus en plus, je me dis le terme est bienvenu, mais c'est peut-être encore trop restreint parce qu'on ne se focalise que sur la technique. Or, il faut saisir les ressorts économiques et politiques qui rendent possible l'état actuel de la technique. Car si François Jarige a parlé d'émancipation, hein, il y avait eu des discours d'émancipation au cours des années 90, portant sur l'avènement de la généralisation de l'Internet comme vecteur de mise en relation entre les individus, ce que nous avons dit tout à l'heure, l'âge de l'accès, la capacité à avoir de façon extrêmement aisée, donc ce qui avait été nommé l'économie du savoir, sans qu'on sache jamais ce que ça voulait dire, mais en tous les cas, dans les faits, il y avait la possibilité d'avoir accès à beaucoup d'informations, de corpus culturels. Donc cela a créé, il était normal, un enthousiasme collectif et même des élans comme ça, rhétoriques, émancipateurs. Or, notre représentation continue, d'être marquée par ce moment-là. Aujourd'hui, l'utopie, on en est un peu revenu de l'utopie d'émancipation. En revanche, il y a une autre utopie qu'il faut saisir, un autre type d'utopie qui est sournoise, mais qu'il faut bien saisir, c'est une utopie économique. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, par le numérique, l'économie des données, l'économie de l'Internet, qui représente le levier de croissance. Et donc, l'idée, et notamment il y a ce que je nomme une collusion du politique, l'idée est de soutenir, et je pèse mes mots là, par tous les moyens, et notamment par des fonds publics, c'est ce qui est le cas en France, mais dans bien d'autres endroits, l'économie des données, mais sans que ne soit saisi, donc il y a une utopie de levier de croissance aujourd'hui, mais sans que ne soient saisies les incidences collatérales, les incidences civilisationnelles qui produisent, nous l'avons dit trop rapidement, mais qui produisent une rationalisation extrême des sociétés, une marchandisation de la vie et une connaissance en temps réel des comportements individuels et collectif. Il y a un aveuglement sur ce modèle, qui n'est pas seulement un modèle industriel, qui induit un modèle civilisationnel, et cela à cause de cette utopie économique que sait très bien vendre l'esprit de la Silicon Valley et ce que je nomme le technopouvoir ou le monde numérico-industriel, et que entérine le pouvoir politique aussi bien par des discours que par des actions concrètes, notamment par des soutiens publics confèrent, par exemple la French Tech en France et tous ces pôles soutenus par l'État français, sans qu'il n'y ait de la conscience sur les effets collatéraux qui sont extrêmement importants et qui méritent d'être saisis et méritent de faire l'objet de débats et de controverses publiques. Or, ces débats et ces controverses publiques n'ont pas suffisamment lieu aujourd'hui.
C'est donc un échec en fait de l'économie, du capitalisme, de l'économie libérale, c'est-à-dire que, ce que vous dites dans les grandes lignes, Éric Sadin, c'est la croissance passera par le numérique, c'est ce type de
Exactement.
Discours.
Alors c'est exactement ça, mais c'est
on
pas un échec.
On change le fusil d'épaule.
C'est exactement, c'est l'acmé d'un néolibéralisme. Alors dont il faut saisir la nouvelle nature, c'est-à-dire c'est les sweatshirts, les hoodies, dit-on aujourd'hui, hoodies de Zuckerberg. Et il paraît que même moi, je vais bientôt dans Silicon Valley un peu observer tout ça. C'est le nouveau maître du monde, tout ça sous couvert du cool, basket, petit jeune imberbe, nouveau modèle, start-up. Donc une sorte de qui est en réalité un modèle entrepreneurial. Qui relève quasiment de l'anarcho-capitalisme, c'est-à-dire un modèle entrepreneurial qui relève de la sauvagerie, faisant fi de toutes les règles, on l'a vu avec Amazon, et tant d'autres qui se soustraient à l'imposition là où leur activité s'exerce, et Uber, en bref, La liste est longue, c'est-à-dire un modèle entrepreneurial qui fait fi de quantité de règles et d'acquis historiques, et qui, sous couvert du cool et du nouveau modèle des startups, est perçu comme étant représentant le modèle économique à venir, incontournable et pire encore, souhaitable. Et sans que ne soient pesées toutes les incidences, et je reviens sur cette affaire d'objets connectés qui va représenter le moment structurant des 10 années à venir, hein, c'est-à-dire tout ce qui peut être connecté le sera, on en parle même de tétines connectées, enfin c'est pas qu'on en parle, ça existe, de bikinis connectés, la grande affaire, vous allez me dire à quoi ça sert, bref, tout ce qui peut être partout où on pourra capter des informations, on les captera en vue de, nous l'avons dit tout à l'heure, d'organiser les sociétés en fonction et de proposer des services et des produits ajustés à chaque moment du quotidien. Ce n'est donc pas qu'un modèle industriel, c'est un modèle de civilisation qui, pour ma part, ne me fait pas rêver. Non seulement il ne me fait pas rêver, mais je le dénonce. Et au nom de l'emploi, au nom des sacro-saints points de croissance, au nom des échéances électorales et de l'obligation d'inverser les courbes de chômage dont François Jarry a parlé, hein, les courbes le volume de chômage, de non-emploi, eh bien, il y a un adoubement de tout ce modèle-là par les politiques et un aveuglement qui, selon moi, est coupable et qui devrait davantage engager une position technocritique, mais de tous les citoyens, relativement à un modèle qui se développe, parce que nous n'avons pas parlé de cela, et c'est extrêmement important, à des vitesses exponentielles, et ces vitesses induisent le fait, eh bien, que ça induit une sorte de naturalisation de l'évolution des phénomènes, on dit que ben, c'est naturel, c'est même inéluctable. Or, le fait que de pas de savoir si c'est inéluctable ou non, le fait est de savoir quel est notre pouvoir d'action à nous, citoyens, relativement à ce mouvement, eh bien ce mouvement qui écrit le cours des choses, sans que nous-mêmes nous ayons suffisamment la capacité de nous prononcer actuellement.
Alors je vous propose une pause musicale, Éric Sadin. Là, à l'instant, j'aurais envie de vous passer Alain Bachung, c'est comment qu'on freine, mais on avait choisi un autre titre qui va tout aussi bien. You don't have to tell me, inutile de me dire, et le nom du groupe est absolument magnifique, Slow Joe, donc Joe le lent, avec le Ginger Accident.
You don't have to tell me. You don't have to tell me what I have to do. You don't have to tell me. You don't have to tell me who I have to be. I'm free to live. I'm free to live and love. I'm free to give. I'm free to say goodbye.
Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Only want to sing for me.
You better get something straight. I've been living all these years by myself. Sometimes it hurts so badly. We got handkerchiefs. I can't really figure out. I wish I knew.
Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Only want to sing for me.
It's hard to live. It's hard to live and love. It's hard to give. It's hard to say goodbye.
Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Only want to sing for
to say goodbye.
Babylone en mode algorithmique aujourd'hui avec ces questions à l'honneur. Miruna, quels sont les changements induits par la numérisation de notre monde? Comment rester un humain dans le monde ultra technologisé qu'on nous promet?
Eh bien, des questions que les technocritiques amènent régulièrement dans le débat public. Mais attention, les technocritiques ne refusent pas la technique ni le progrès, l'idée de progrès, mais ils s'opposent à l'ordre social et politique qu'ils véhiculent. François Jarry, je nuance cette polarisation caricaturale entre technophiles progressistes et technophobes passéistes, on l'écoute.
Ce qui est paradoxal, c'est que les gens qui n'ont pas Internet ne sont pas considérés comme des gens qui ne veulent pas Internet, ils sont considérés comme des gens qui manquent d'Internet, qui souffrent d'un manque d'Internet. Et les pouvoirs publics vont massivement développer la fibre optique pour équiper les territoires qui sont privés du numérique, de numérique. Et donc l'argument, c'est il ne faut pas réfléchir à est-ce que les gens ont vraiment besoin d'Internet, est-ce que c'est nécessaire de dépenser autant d'énergie, autant de consommation pour numériser toute la société. La question qui se pose, c'est il faut que les gens aient l'Internet. Ça devient une sorte de devoir de l'État d'aider les gens à acquérir Internet. Et personne ne part du principe qu'il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas, qui n'y voient pas d'intérêt. Je trouve effectivement que la polarisation du débat en deux camps caricaturaux, d'un côté les technophiles qui seraient pour les techniques, et de l'autre côté les technophobes qui seraient contre, avec cette idée de phobie qui serait viscéralement contre, cette idée, elle est commode. Elle permet de bien visualiser les positions, mais évidemment, elle ne fonctionne pas. Hein. Elle est beaucoup trop caricaturale. Moi, ce qui me frappe, c'est que les technocritiques sont souvent en fait des experts. Ça, c'est un point qui doit déjà être souligné. Les technocritiques sont souvent des gens qui connaissent les techniques. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas illusionner par le pouvoir démiurgique des technologies. Hein, aujourd'hui, une grande partie des technocritiques sont des informaticiens, sont des gens qui connaissent le fonctionnement de l'Internet de l'intérieur et qui savent que l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il se développe au niveau économique, c'est d'abord un instrument pour faire du profit et pour contrôler les populations. D'où les principaux technocritiques du numérique, ce sont des hackers, ce sont des Snowden et tous ces gens qui aujourd'hui sont les porte-parole dans l'espace public de cette mise en garde contre les risques politiques du numérique.
Nos libertés fondamentales, et quand je dis nous, je ne parle pas que des Américains, je parle des gens du monde entier. Ce sont des choses auxquelles tout le monde croit. C'est à chacun de nous de les protéger. Toutes ces personnes qui ont vu et apprécié un Internet libre et ouvert. C'est à nous de préserver cette liberté pour que la prochaine génération en profite. Et si nous ne changeons rien, si nous ne nous battons pas pour changer les choses qu'il faut réaliser pour maintenir un Internet sécurisé, pas pour nous seulement, mais pour tout le monde, nous allons le perdre. Ce serait une perte immense. Pas que pour nous, mais pour le monde entier.
Le problème, c'est de dire que les gens sont des technophobes, ça n'a aucun sens. Les gens critiquent tel choix technique, telle trajectoire technique pour ses effets sociaux, culturels, politiques, environnementaux. Et les renvoyer du côté de la technophobie, c'est évidemment une stratégie rhétorique visant à les disqualifier comme des espèces de peureux pathologiques, en quelque sorte. Et donc, le débat sur la technique, c'est en fait le débat sur des choix politiques, sur des choix d'investissement, sur des choix économiques. Et au final, c'est pas donc la technique le cœur du problème. Derrière la technique, il y a des choix de société, des choix d'organisation politique, des choix économiques qui sont faits. Je crois qu'autour du numérique, c'est bien ces questions-là qui se posent.
La technique est une augmentation de la puissance et aussi des risques. Des risques. Puisque nous disions, on cherche l'efficacité, on ne regarde rien d'autre, donc on peut augmenter des risques. Il faudrait autrement dit que l'homme change vite pour utiliser bien, je ne dis pas efficacement, je dis bien la technique. Et il faudrait que se produise ce que le philosophe français Bergson, il y a bien longtemps, 1930, avait dit, plus la puissance de l'homme augmentera, plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme.
Nous sommes en compagnie d'Éric Sadin, philosophe et auteur du livre « La vie algorithmique, critique de la raison numérique » paru aux éditions L'Échappée. On vient d'entendre à l'instant Jacques Ellul qui nous parle d'un supplément d'âme. Alors j'ai envie de vous entendre là-dessus, Jacques Sadin.
Éric Sadin.
Éric Sadin, pardon.
Oui, c'est Jacques Ellul, excusez-moi.
Qui nous perturbe.
Voilà, je comprends, je vous pardonne.
Merci.
Le grand Jacques Ellul que je cite souvent, pour revenir à ce que disait François Jarry, je disais les technocritiques sont souvent des experts. Il a raison. Parce que dans le numérique, dans ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup de discours que je nomme enjoliveurs, hein, c'est-à-dire qui masquent les réalités. Par exemple, ce qui a été nommé économie collaborative, hein, dont on voit ce que ça donne. Hein, c'est-à-dire, en réalité, c'est comme Uber, Airbnb, ce sont des grandes plateformes qui mettent en relation des individus entre eux en vue d'opérer des échanges marchands et qui ponctuent des pourcentages. Hein. Si c'est ça le collaboratif, ce n'est pas du collaboratif, ce sont des schémas marchands, mais qui sont recouverts de discours. Or, ces discours occupent beaucoup l'espace et façonnent pour partie nos représentations, et il faut les déconstruire, ces discours. Ce que j'essaye de faire, et ce que certains d'entre nous s'efforcent de faire. Et pour déconstruire les discours, il est bon de savoir comment sont structurés les systèmes techniques. C'est pour ça que le code, l'apprentissage du code, la connaissance des systèmes techniques devrait relever de l'éducation citoyenne, de l'enseignement, et pas seulement intégrer des tablettes à l'école pour avoir des manuels scolaires. L'enjeu éducatif aujourd'hui, il n'est pas du tout celui-là, parce que là encore, si on donne l'exemple des tablettes, le politique agit avec beaucoup de précipitation, en voulant supposer suivre le cours naturel des choses, mais on doit relever que relativement à ce genre d'attitude, il y a du lobbying qui s'exerce, hein, il y a le lobbying numérico-industriel qui est extrêmement puissant, hein, et qui également influe sur le politique, hein, qui croit au discours. Hein. Le lobbying, c'est pas seulement, c'est aussi vendre des utopies économiques, vendre des solutions, par exemple les tablettes. Donc, je disais, une connaissance du code, une connaissance de la structuration des systèmes techniques, qui peut-être, puisque les technotechniques sont des experts pour la plupart, et c'est vrai, eh bien, rendra d'autant plus les citoyens, les individus experts relativement aux systèmes techniques. Je renvoie aussi de rencontres à Madison, je renvoie au logiciel de Volkswagen, je renvoie aux algorithmes de Google. Pourquoi je renvoie à cela? Parce qu'il y a une invisibilité du computationnel. C'est structurel, il y a toute une série de choses que nous ne voyons pas. C'est comme ça. Or, cette invisibilité, c'est pas une théorie du complot, c'est structurel, c'est technique. Or, cette invisibilité, elle crée une asymétrie. Et cette asymétrie, eh bien, il convient de faire en sorte qu'elle puisse être autant que possible amoindrie, et en tout cas, cette asymétrie rend possible des jeux de mensonges. On l'a vu avec le site de rencontre. Il paraît qu'il était dit dans les slogans, il y a 10 millions de femmes qui vous attendent. En réalité, il y avait que des hommes et peut-être 30 000. Voilà. Et ça, c'est des hackers. Hein. Et on a découvert la black box, la boîte noire, ce qui est caché. Ça fait partie de notre l'environnement technique. Or, cela crée cette asymétrie. Cette asymétrie est problématique. Et il faudrait pouvoir, par des cadres juridiques et par une conscience qu'il y a des choses qui nous échappent, eh bien accentuer autant que possible notre vigilance.
Mais Éric Sadin, vous parlez de mensonge. Il est où le mensonge, en fait? Parce que l'asymétrie, vous dites asymétrie, c'est que si les gens, si la société civile n'arrive pas à forcément s'impliquer, s'emparer de ce discours technocritique, c'est aussi parce qu'on ne se, on se sent pas compétent, en fait. C'est ça le problème. L'asymétrie vient de là.
Il y a quelque chose comme ça. On n'est pas compétent parce qu'il y a aussi, comme je dis souvent, est-ce que vous avez déjà vu une base de données? Personne n'a vu une base de données. C'est dynamique.
On ne sait pas à quoi ça ressemble.
Oui, et c'est des magmas de chiffres. C'est comme le trading algorithmique, la vitesse à laquelle ça va. Enfin, j'ai presque envie de dire le génie humain, hein, a créé des systèmes d'une puissance mais phénoménale, dont les fonctionnements, la structuration interne nous échappent. C'est comme ça.
C'est une révolution invisible, Éric Sadin.
Voilà. Il y a une part d'invisibilité. Mais il ne faudrait pas. Je ne dis pas qu'il y a du mensonge, je dis qu'il y a des possibilités, des virtualités. On l'a vu avec Ashley Madison, on l'a vu.
Cette affaire où on a dévoilé en fait des numéros de téléphone pour des sites de rencontres et des hackers qui ont publié donc ces informations.
Voilà, et c'est surtout que ce qui était dit sur les abonnés à ce site, ce n'était pas vrai. Il n'y avait que des hommes, et je ne sais pas, quelques milliers, mais la proportion elle est de 1 à 1000, enfin bon. Donc il y avait un mensonge, mais c'est pas systématique. Là où il y a invisibilité, il n'y a pas toujours mensonge, loin de là, mais il y a possibilité. Regardez avec les logiciels de Volkswagen. C'est qui peut voir un logiciel? On ne le voit pas. Il faut faire de la rétro-ingénierie, faire de l'analyse. Donc, oui, il y a de la symétrie. La symétrie ne veut pas dire toujours mensonge, mais il dit des nouveaux problèmes de société qui émergent. Et voilà un problème majeur qui n'est pas posé. Qui n'est pas interrogé. Et cela suppose d'essayer d'encadrer cela et puis d'éveiller notre culture, notre culture technique. Car quand j'ai parlé de virtualité, de mensonge, il est évident qu'il y a quelque chose dans l'économie du numérique et de l'ordre aujourd'hui de la rapacité, de la recherche du profit qui fait agir de façon qui mériterait, qui appellerait des contre-pouvoirs. La démocratie, c'est les contre-pouvoirs, hein, c'est Montesquieu. Hein. Et il me semble aujourd'hui que le monde numérico-industriel, que je nomme technopouvoir, non seulement soumet le monde politique à sa botte, mais s'efforce d'écrire le monde présent et à venir à notre place, et il faut qu'il y ait à toute échelle davantage de contre-pouvoirs pour stabiliser notre vitalité, notre vitalité, la vitalité démocratique.
Mais quelles sont les armes de ce contre-pouvoir? Ils sont forcément technologiques?
Ils sont multiples, ils sont de la prise de conscience, essayer de...
Mais ça suffit pas.
Non, mais la liste, d'abord, c'est à nous tous de trouver un arsenal de solutions. Hein. C'est éveiller une conscience technique, comme j'ai dit, c'est faire en sorte que le politico-juridique, hein, le législateur confère la loi sur le numérique en France, ne soit pas à la botte du monde numérico-industriel au nom de la croissance. Hein. Je pense, par exemple... on n'a pas le temps, là, aujourd'hui, mais ce qui est nommé open data, c'est-à-dire toutes les données publiques qui relèvent de l'État, eh bien, on les donne gracieusement aux entreprises, en vue, une fois de plus, aux start-up, en vue, une fois de plus, de tout transformer en service marchand, et cela gratuitement, et grâce aux efforts fournis par les fonctionnaires de l'administration publique. Enfin, voilà. Et tout ça au nom de libérer les start-up, libérer des nouveaux services, dit-on. Eh bien, une fois encore, ce sont des questions politico-juridiques qui pourraient être traitées autrement, hein, que seulement servir les supposés points de croissance, et technologiques, c'est-à-dire aussi, vous avez dit, les solutions doivent être technologiques. Il y a d'autres modèles à imaginer que piller les informations sur les individus ou sur nos sociétés et tout transformer en services et en produits marchands. Il y a d'autres modèles à imaginer. Or, c'est ce modèle-là, hein, de tout quantifier, de tout transformer en service marchand, qui est privilégié. Il nous revient aussi de penser à d'autres modèles, d'autres modèles. Alors peut-être qui suppose moins de profits, je veux bien le reconnaître, hein, qui suppose moins de milliardaires, enfin la création de moins de milliardaires, comme dit notre ministre Emmanuel Macron. Hein, je rêve d'une société où tout le monde veut être milliardaire, mais qu'est-ce que ça veut dire milliardaire? Ça veut dire développer ces modèles-là, hein, ces modèles marchands. Il y a des modèles vertueux aujourd'hui, et nos sociétés doivent penser à des modèles vertueux basés sur le refus de la rapacité, le refus du pillage de la connaissance des comportements. Alors, quand on dit ça, ce sont aussi peut-être que des discours, et la courbe est probablement extrêmement difficile à inverser, notamment relativement aux effets de vitesse, hein, la vitesse avec laquelle les choses s'instaurent.
Alors, je vous propose encore un pas de côté, Éric Sadin, avec un regard sur cette frontière très floue aujourd'hui, hein, entre le travail et la vie privée. Miruna, vous avez rencontré un autre regard, comme j'aime les appeler.
Oui, justement, l'accès à la connaissance grâce à Internet, on vient de l'entendre, c'est super. Que ferions-nous sans Wikipédia? Oui, mais ce que nous oublions, c'est qu'il suffit de saisir un mot-clé dans un moteur de recherche pour améliorer ses résultats. S'enregistrer sur Skype nous rend bel et bien travailleurs pour Skype. Eh bien, pour Antonio Casilli, maître de conférence en Digital Humanities à Paris Tech et chercheur en sociologie au Centre Edgar Morin, nous sommes tous des digital laborers, c'est-à-dire des travailleurs du digital. Je lui ai demandé quel est l'impact social des algorithmes, de ces chiffres, de ces données sur nos sociétés.
c'est le fait de nous avoir obligés surtout à travailler en termes de plateformes sur lesquelles ces algorithmes sont déployés. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le fait que ces algorithmes soient utilisés sur des plateformes qui réalisent de la coordination entre différents acteurs sociaux. Ces acteurs sociaux peuvent être des personnes du même type. Donc, par exemple, c'est des plateformes qui pourraient mettre en communication des individus partout dans le monde. Donc, pensez tout simplement à, je ne sais pas, un Skype ou alors la promesse de Facebook de vous connecter avec d'autres personnes comme vous. Mais de l'autre côté, il y a une utilisation qui est évidemment encore plus intéressante parce que l'impact économique et politique peut être énorme. Bah, c'est évidemment le terme de coordination algorithmique sur les plateformes de nature commerciale. Et là, de ce point de vue-là, nous voyons une transformation constante des entreprises qui sont en train de devenir, ou alors d'adopter un paradigme de plateforme et qui sont en train de dépasser même la logique du marché. La logique du marché qu'on avait héritée de la modernité, en effet, est en train d'être complètement déjouée par l'idée d'une plateforme dans laquelle les producteurs et les consommateurs sont mis en contact et sont capables de travailler via cet intermédiaire. Alors là, c'est une manière effectivement de dépasser une entité, le marché, une entité centrale pour la modernité capitaliste. Et donc on est en train de s'ouvrir à des possibilités qui sont parfois, selon certains, extrêmement dangereuses, mais qui parfois peuvent être extrêmement prometteuses, par exemple en termes de qu'est-ce qui se passerait si on avait une plateforme algorithmique qui réalise des formes coopératives ou qui réalise des formes de mutualité, de solidarité, de soutien réciproque et qui déjoue complètement le marché actuel.
On n'est pas dans la matrice ?
Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types.
Que sont-ils ?
Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrée et de sortie dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne.
Donc, comme résultat, bouleversement, en fait, de la notion même de classe sociale, donc forcément aussi beaucoup d'inégalités.
Ça, c'est un risque. En effet, la question des inégalités et des discriminations et du renforcement de certaines formes de privilèges via les algorithmes est amplement étudiée. Il y a un impact sur la structure même de ce qu'on appelle une classe sociale. Et là, pour revenir à la question de l'algorithme nourri par les utilisateurs, nourri par les digital laborers, c'est-à-dire par les travailleurs de ces algorithmes même, peut-être que là, on est face à l'émergence de nouveaux sujets sociaux. Certains définissent ce nouveau sujet social comme un cognitariat, c'est-à-dire un prolétariat du capitalisme cognitif ou alors un prolétariat algorithmique, mais d'autres pourraient dire d'une manière un peu plus neutre qu'il s'agit tout simplement de l'émergence d'une classe usagère, comme on parlait auparavant d'une classe ouvrière. Là, on est face effectivement à une usine numérique, une usine algorithmique, et dans ce contexte, c'est les usagers qui sont les petites mains, et ces petites mains, parfois, sont capables de s'organiser, de se structurer, de se reconnaître réciproquement et de devenir un sujet social à part entière.
Eric Sadin, rassurez-moi, au moindre clic, je ne vais pas devenir coupable.
Non, vous n'êtes pas coupable.
Quoique, responsable.
Oui, responsable. Alors, il faudrait, vu le nombre de clics qu'on fait par jour, être responsable sur chaque clic, ça nous engage. C'est l'angoisse existentielle, là, qui est amplifiée comme jamais. Quand nous parlons d'algorithmes, il faut bien entendre, alors ce sont des séquences de chiffres, de plier des données à des fonctionnalités, il faut bien comprendre les algorithmes comme des intentions. Hein. C'est ça qu'il faut saisir. C'est-à-dire, c'est des intentions de faire en sorte qu'avec telle action, telle donnée, eh bien, il se passe telle chose. Alors là, nous parlons de travail. Alors, je voudrais dire deux, trois petites choses extrêmement claires. Je vais essayer de rendre clair. Alors, quand Antonio Casilli dit que, par exemple, on travaille sur Facebook, quand on est sur Facebook, on travaille parce qu'on produit de l'information, on produit de la valeur ajoutée qui va être utilisée par Facebook. Moi, je ne pense pas du tout qu'on travaille. On n'est pas du tout obligé d'aller sur Facebook. En revanche, il faut savoir que quand on y va, il y a effectivement de la valeur ajoutée et qu'il y a une compagnie qui se sert de cela. Et donc, il faut être vigilant. Il faut savoir si on veut. Mais il ne s'agit pas à mon sens, il ne s'agit pas de travail. En revanche, là où dans le champ du travail, il se passe des choses nouvelles. Ce sont deux points. Le premier, c'est que il y a eu beaucoup d'études ces derniers temps, c'est que l'informatisation, la numérisation, on disait avant informatisation, la numérisation des entreprises, des lieux de travail, l'érection de robots de plus en plus compétents, aussi bien des robots de fer, enfin de métal, que des robots immatériels, eh bien, rend possible l'effectuation de tâches de plus en plus complexes, des tâches cognitives de plus en plus élevées, ou des tâches manuelles de plus en plus à des vitesses et à des taux de productivité plus élevés. Donc ça induit beaucoup de destruction d'emplois, et qui ne sont pas remplacés par ce qui est nommé levier de croissance, utopie économique. Donc il n'y a pas de remplacement systématique et égal. C'est une première chose, et ça c'est avéré par des études. La deuxième chose, dans le champ du travail, c'est que de plus en plus, nous parlions de capteurs au début de l'émission, de plus en plus de lieux de travail introduisent des systèmes d'évaluation des performances, de suivi des modalités des comportements dans le travail par des systèmes, là une fois encore, dont on ne voit pas comment ils sont structurés, dont on ne voit pas les intentions et qui organisent en retour les modalités des formes du travail. Et cela, vous savez, le contremaître usuellement, il était là pour faire en sorte que les directives de l'entreprise soient effectuées au mieux, mais au moins on pouvait s'opposer à lui, au moins il pouvait y avoir du conflit, de la négociation à un
de
moment... De l'humain, du sensible, même de l'opposition, du conflit violent, mais c'est toujours historiquement prolongé par de la négociation et des cadres et des règlements, on appelle ça l'histoire pour certains, le fait qu'il y ait de la concertation et des acquis. Eh bien, aujourd'hui, dans le champ du travail, par exemple, puisque nous parlons de cela, il y a des modalités organisationnelles dont les intentions échappent à la visibilité et ne font pas suffisamment l'objet dans le champ de l'entreprise, dans le champ du travail, l'objet de délibération, négociation. Or, ça me semble être aujourd'hui, si on parle de faits extrêmement concrets, un des enjeux décisifs des années à venir, c'est-à-dire de la feedback économique, transformer tous les actes en données et avec des effets de rétroaction de plus en plus serrés et donc de suivre des résultats d'équation. Alors allez-vous vous opposer à des résultats d'équation qui nous disent d'agir de telle façon, par exemple les entrepôts d'Amazon, aller à telle vitesse, etc. Là aussi il y a eu beaucoup de... Mais aussi dans les services, dans les bureaux, il est difficile de s'opposer à cela. Donc ça entraîne aussi des organisations de vie à la fois dont les intentions échappent et à la fois qui ne font pas suffisamment l'objet de débats aujourd'hui.
Éric Sadin, le temps file, mais en un mot, parce que c'est une question qui me hante, que faire de ce désir irrépressible de l'homme d'être pérenne, de laisser des traces?
Oui.
Et là, en un mot.
Oui, là, en un mot, nous sommes dans un environnement contemporain, épistémologique, technologique, où tout témoigne. Tout témoigne. Ce témoignage intégral de la vie individuelle et collective induit une volonté de puissance qui est celle d'une volonté de maîtrise de toutes les choses. Nous sommes dans ce moment-là de l'histoire. Et ce moment, cette passion de la maîtrise humaine, qui remonte à très loin, aujourd'hui et dans les années à venir, elle va pouvoir s'exalter avec une puissance sans commune mesure historique. C'est à nous de savoir si nous voulons être surpuissants ou si nous voulons encore laisser de la place à de l'incertitude, à du sensible, à du doute ou à tout transformer en données, à tout maîtriser par des jeux d'abstraction mathématique, de système et d'extrême rationalisation de nos sociétés. C'est à nous de décider cela et pas seulement à la Silicon Valley, à l'esprit de la Silicon Valley et au monde numérico-industriel.
Et je renvoie nos auditeurs au délicieux parfum du livre « La vie algorithmique et critique de la raison numérique ». C'est signé par vous, Éric Sadin, et c'est paru aux éditions L'Échappée. Babylone du jour vous était proposé par Miruna Kokakosma, Nancy Psilantis. Merci à Alexandre Lemierre au studio de Paris, à Bruno Seriba pour la réalisation, à Nicole Corpato, notre assistante de production. Vous écoutez Espace 2, merci. Demain, dans cette même émission, nous vous parlerons de tabac. Il est 10h.